Red Universe. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre 10. Pin-up.
Précédemment, dans Red Universe. L'Exode, le plus grand mouvement de population de toute l'histoire de l'humanité. Suite à la révolution Castix ayant abattu une royauté multicentenaire devenue corrompue, un nouveau système politique répressif et économiquement libéral se met en place sur la planète Mater One. Les anciens combattants d'hier, révolutionnaires ou royalistes, préfèrent fuir cette dictature en devenir où le contre-amiral Pophéus, avec son armée d'agents secrets mentaux, mène une répression impitoyable contre l'organisation des mutualistes qui a pourtant réussi à capturer son principal lieutenant, Ralato. Sur les 7 transporteurs gigantesques de l'Exode, les sociétés se réorganisent autour des appartenances culturelles géopolitiques et les clans se forment jusque dans le Haut Conseil des Commandants, instance suprême de l'Exode. Pourtant, d'autres dangers guettent ces derniers bribes d'espoir de démocratie et de liberté sociale. Pirates, sondes suicides, ou simplement arnaques en tout genre, comme dans la dernière station spatiale de l'univers connu, Piñata El Grande, ultime étape avant la plus terrifiante des aberrations cosmiques, la passe de Magellan.
La station Piñata El Grande n'avait encore jamais connu d'affluence comme celle de ces derniers jours. On se souvenait de l'arrivée de réfugiés d'un paquebot de luxe, percuté par une météorite, dont les milliers de passagers avaient été transférés en urgence sur la station. Mais cela n'avait rien à voir avec les centaines de milliers d'exodés à bord des 7 transporteurs, dont un seul à la fois pouvait s'amarrer faute de place et de systèmes appropriés. Les rues principales étaient bondées, les touristes comme les locaux serrés les uns contre les autres, et on comptait déjà de nombreux cas d'évanouissement, de crises de nerfs ou de claustrophobie. Les préparatifs pour la venue de cette marée humaine n'avaient pas été à la hauteur de l'événement, et c'était en urgence qu'on ouvrait les chemins d'accès, parfois assez ésotériques, traversant des habitations ou des boutiques, mais qui permettaient aux secours et services officiels de se frayer un passage au travers des quartiers. La princesse Azala progressait le long de ces corridors aux multiples nuances de couleurs et de formes, admirant ici des objets d'art plus ou moins originaux, là la décoration intérieure d'une habitation dont la tenancière avait débarrassé rapidement les tapis, meubles et pots de plantes plastiques entre les deux portes percées de part et d'autre de son salon. Melba, sa gouvernante, la suivait de près, partageant idées ou amusements, gardant l'œil alerte, prête à bondir si sa maîtresse risquait le moindre danger, dans ce lieu connu également pour être un repère de brigands et de dépravation. Un groupe d'infirmiers les doubla rapidement, transportant une civière sur laquelle un homme délirait. Encore un cas de crise quelconque. L'idée même d'ouvrir les ports des transporteurs sur Piñata était mauvaise, mais forcée par le moral des populations de ces immenses vaisseaux qui voyaient là le moyen de faire leurs adieux à l'univers humain connu. On allait certainement recevoir des plaintes de braquage, de vol, de disparition, peut-être même de viol ou de meurtre. Et encore, Azala se refusait-elle à formuler une statistique des arnaques en tout genre, destinée à vider les portefeuilles des dernières monnaies de Mater One y traînant. Justement, au détour d'un magasin de vêtements, un petit homme jovial, plutôt âgé, restait statique, attendant dans l'encadrement d'une porte fraîchement découpée, les mains jointes en attitude de prière.
Princesse Azala, je présume. C'est un plaisir de vous accueillir à bord de la station Piñata El Grande,
déclara-t-il posément d'une voix dénotant le respect.
Le plaisir est partagé, monsieur.
Brotto. Je suis le marchand Brotto, fournisseur en toutes choses, et si madame me le permet, guide des plus efficaces de cette station.
Je regrette, mais je ne pense pas que nous ayons besoin d'un guide, monsieur Brotto. Piñata n'est guère plus grande qu'une de nos cités intérieures et nous ne restons pas longtemps.
Brotto partit alors d'un rire profond, de ces rires habitués aux pubs et aux grandes soirées de chants et de bières ne finissant jamais. Déjà Melba glissait par-devant sa princesse, serrant un poing et tendant les doigts de l'autre main, telle une lame. Le marchand leva alors les mains dans une position apaisante, tentant de s'expliquer.
Allons, madame, permettez-moi de vous expliquer avant que votre cerbère ne me tranche la gorge. Pin-up est une station disparate, dangereuse, mais passionnante si on sait chercher. Je sais où chercher, et j'en connais les pièges. J'ajoute que votre intérêt pour les arts et l'histoire est connu jusqu'ici, et que je considérerai comme un honneur de vous amener là où bon vous semblera, du moment que vous me dites au préalable où va votre curiosité.
Terminant son allocution par une pose de déférence, tête courbée et main droite contre le torse, Broto ne bougea plus, attendant patiemment. La princesse toucha alors doucement le bras de Melba, qui se détendit et ajouta
« Monsieur le marchand Broto, nous sommes très intrigués par ces fameuses pièces inédites provenant de l'autre côté de la passe de Magellan. On dit que certaines sont hors de toute compréhension. Sauriez-vous où en trouver ?»«
J'en possède dans mon humble échoppe, madame. Il s'agit d'une de mes spécialités. »
ajouta-t-il, relevant la tête, un sourire au coin des lèvres.
Le politicien Junta jonglait entre les chargements de caisses de toutes sortes pour le ravitaillement du transporteur à quai. Il avait pris une navette pour atteindre discrètement la station, répondant à la demande de sa sœur de parcourir les fameux souks de Pinata. « Nulle part ailleurs qu'à Pinata », disait le slogan, et cela exerçait sur les foules une attraction irrépressible. Son transporteur ne serait que le quatrième à s'amarrer, et celui de Nawan le cinquième dans la liste. Autant dire que plusieurs jours allaient s'écouler avant leur tour. Et si les commandants de vaisseaux avaient bien un privilège, c'était de pouvoir vaquer quand et où bon leur semblait. De mes souvenirs de reportage, il se trouve dans ce souk des marchandises de la totalité de l'espace connu et de nombreuses reliques plus ou moins attestées de l'univers au-delà de la passe.
Sans vouloir te déranger, je crois savoir que les infrastructures de la station ne sont guère prévues pour tant de monde en même temps. On risque vraiment d'être bousculé.
Alors, mon cher frère, tu vas pouvoir me démontrer tes magnifiques aptitudes de débrouillardise en milieu inconnu.
Évidemment, j'ai mes sources. Pin-Up ne m'est plus autant inconnu que ça.
Et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent au milieu des caissons étanches circulant dans tous les sens, approvisionnant l'exode. Au détour d'une colonne de tubes fluorescents, Junta ouvrit un sas qui donnait sur un couloir froid, semblant s'allonger indéfiniment dans le silence de l'obscurité des entrailles de la station. Ses informateurs lui avaient dit qu'il s'agissait d'un passage spécial pour l'œil de la station. Ses informateurs lui avaient dit qu'il s'agissait d'un passage spécial pour les contrebandiers, ressortant directement au cœur de la station, dans les lieux touristiques, des centaines d'échoppes du souk. Prenant une barre à mine, il tapa trois coups le long de la tringle descendante, et après une petite minute de patience, un gros type patibulaire aux gestes brusques, le visage tranché d'une longue cicatrice rougeâtre fit son apparition.
« Deux, sans aucun changement, jusqu'au souk. »
prononça simplement le politicien en tendant un billet de banque. L'autre prit avidement l'argent et, sans même parler, fit demi-tour les mains serrées autour de la rétribution, leur faisant signe de l'autre main d'aller où il voulait.
« Et voilà, on a un sauf-conduit. »
« Incroyable. Mais comment as-tu ?»« Oui, bon. » Tes renseignements sont toujours précis et corrects, c'est cela ?
Exactement, c'est cela. Et nous avons 20 minutes de marche pour y arriver.
Leurs pas résonnèrent dans l'obscurité, s'éloignant doucement.
Je prête une attention toute particulière à ce qui vient de l'autre côté. Certes, comme tout le monde ici, mais je recherche en priorité les objets incongrus. Propre à intéresser les amateurs de curiosité.
Le marchand Broto devança Azala, mais lançait régulièrement une œillade derrière lui, comme pour confirmer que son public le suivait. La princesse et sa suivante éprouvaient le plus grand mal à tenir le rythme de marche de leur guide. Celui-ci n'avait pas hésité à quitter le corridor des services officiels pour avancer à marche forcée au travers des ruelles plus inquiétantes et ragoûtantes les unes que les autres.
Mesdames, je vous prie de me faire confiance. Surtout, ne me quittez pas. Tous les lieux de Pin-Up ne sont pas sûrs.
Azala jetait des coups d'œil dans le prolongement des croisements de rue. Et les informations qu'elle avait obtenues sur cette station étaient malheureusement exactes. Aucune administration fiable ne gérait cet endroit. Les grands patrons des casinos et des lieux de prostitution formaient une caste dominante qui n'avait qu'un seul but, accumuler le maximum d'argent de ceux qui transitaient par là. Un gros noir ventru, s'appuyant sur deux femmes maigres et dénudées, apparut dans un recoin du chemin. Il tendit nonchalamment un phallus énorme en direction d'Azala, murmurant des propos obscènes. Vif comme l'éclair, Melba réagit, enfonçant son talon gauche dans les testicules offertes. Humant de douleur, le noir se plia en deux, tandis que les deux prostituées tournaient autour de lui en glapissant, complètement perdues, les yeux affolés, fixant le vide. Broto apparut soudain et, avec autant de tact que possible, entraîna ses deux invités au loin.
Et là, on est où ?
En haut d'une petite échelle métallique, Runta donna un coup d'épaule pour déplacer le sas rond au-dessus de lui. Le grincement s'ouvre, puis l'objet se souleva, pour se plaquer immédiatement au sol, faisant naître un juron chez le politicien qui venait de se cogner la tête.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce sas ?
Malgré plusieurs essais, il fut évident qu'on ne pouvait le soulever de quelques centimètres plus d'une seconde ou deux.
Il y a peut-être quelque chose au-dessus ?
Mais non, c'est... Bon sang, mais oui !
Ouais. Il y a donc bien quelque chose au-dessus.
Pire que cela, viens.
Entraînant sa sœur, Runta parcourut une centaine de mètres, puis tourna à gauche et remonta une nouvelle échelle. Le sas au-dessus d'eux s'ouvrit normalement cette fois, et ils purent remonter, pour se retrouver à l'intérieur d'une sorte de remise, remplie d'un bric-à-brac fantastique d'objets en tout genre, recouverts de plusieurs centimètres de poussière. Onawan éternua immédiatement, ce qui ne fit qu'envoyer plus de poussière dans l'air.
On sort d'ici!
Oui, la porte est coincée. La porte est coincée, je vais forcer.
Dépêche-toi.
Mais, fermée de l'extérieur, la porte de la remise refusa, à son tour, obstinément de s'ouvrir.
Bon, je redescends. Toi et tes idées.
Une minute plus tard, Onawan et Runta faisaient le point. Assis sur une canalisation, dans la semi-obscurité du corridor inférieur.
En fait, là... première sortie doit sûrement donner sur un lieu de fort passage piéton. Elle n'aurait pas dû, mais l'arrivée de l'Exode a probablement modifié la fréquentation de certaines zones. Voilà pourquoi le sas refusait de s'ouvrir, c'était tout simplement la foule qui le piétinait.
La militaire essuyait les quelques larmes dues à l'excédent de poussière qu'elle avait inhalé, parfaitement sourde aux explications de son frère. Soudain, elle se tendit, écoutant le silence.
Quelqu'un vient ici.
Et en effet... des pas et une torche se rapprochaient. Si une rencontre en ce moment pouvait bien leur être salutaire, elle pouvait également leur être extrêmement déplaisante. La lueur approchante les illumina alors et les pas s'arrêtèrent net.
Monsieur Junta ?
Cette voix ? Princesse ? Princesse Azala ?
Mais qu'est-ce que vous faites ici ?
Grogna d'une voix rude. Devant eux se tenaient le marchand Broto, la princesse Azala et sa suivante Melba. Après de rapides explications, Broto précéda le petit groupe sur l'échelle métallique. Puis, dans la pièce poussiéreuse, il souleva nonchalamment une planchette au sol, dissimulant un bouton, et appuya dessus. Dans un déclic des plus normales, la porte s'ouvrit, et tous purent pénétrer dans un intérieur de magasin où de nombreux visiteurs chinaient déjà. Devant le regard bouillonnant d'Onawan, dirigé contre la tête penaude de Runta, il ajouta
« Soyez les bienvenus dans ma modeste boutique !»
Et d'un grand éclat de rire fort et profond, il conclut la petite traversée.
Je me propose de vous laisser flâner dans les étals quelques minutes, le temps que je prépare mes plus belles pièces, messieurs dames.
Précisa Broto en s'inclinant devant ses hôtes.
N'hésitez pas à demander à mes aides conseils et recommandations. Je reviens.
Azala fit quelques pas pour se placer aux côtés de Runta, qui assistait sa sœur dans l'étude de quelques poteries soi-disant très anciennes de Materwan.
C'est vrai que la technique employée est ancienne. Mais de là à dire qu'elles ont plusieurs milliers d'années, je doute qu'on puisse alors les retrouver ici.
Certainement qu'un test de lithium 111 aiderait. Veux-tu que je fasse venir un spécialiste ? J'ai monté une petite équipe dans ce domaine récemment sur mon transporteur.
Vous vous intéressez aux vieilles pierres que l'on trouve en chemin, monsieur Junta ? C'est un hobby passionnant que je pratique également.
Madame Azala, ce sera un plaisir de partager nos passions communes. Encore faudrait-il qu'il n'y ait pas de quiproquo vis-à-vis de votre commandant. Elle pourrait sortir ses griffes trop vite.
La princesse eut un petit sourire et noua ses mains dans son dos, se balançant sur la pointe de ses petits pieds, présentant une moue d'enfant.
Oui, je vous comprends, elle était particulièrement de mauvaise humeur ces derniers temps. Je crois savoir que votre réunion des commandants a été mouvementée.
Ces informations sont secrètes, princesse. Nous ne pouvons discuter librement là-dessus. Un communiqué officiel a déjà été rendu public.
Sèchement, la lieutenant-colonel venait de clore la conversation. Son frère se perdit alors dans la contemplation d'un anneau en métal rouillé. Broto arriva sur ce fait.
Voilà, je vous remercie de m'avoir attendu. Si vous voulez me suivre, la salle de présentation est prête.
Le petit groupe suivit le vieil homme, Melba fermant la marche. Ils pénétrèrent dans un petit réduit masqué du reste des étals par plusieurs rangées de rideaux de soie colorés aux motifs raffinés. Des accroches dorées reflétaient les rayons de lumière tamisés, exaltant de magie le lieu au fur et à mesure qu'ils avançaient. Des odeurs d'encens embaumaient l'atmosphère à la limite de l'entêtant. Vraiment, Broto avait mis tous les atouts de son côté pour impressionner ses invités. Les derniers rideaux écartés, ils se retrouvèrent dans un salon typé culture brune, avec de grands coussins moelleux, des tapis épais couvrant sol et mur, ainsi qu'une petite table dorée au milieu de laquelle trônait une théière fumante, accompagnée de plusieurs verres. Ses hôtes tout juste installés, il tapa deux fois du pied au sol, et un garçon musclé habillé de cuir au corps huilé fit son entrée de derrière une quelconque issue discrète, portant au-dessus de lui un grand plateau d'or ciselé empli de multiples paquets. S'arrêtant en retrait de la table, il s'accroupit en tailleur à même le tapis du sol et posa le grand plateau sur ses cuisses, puis stoïquement courba la tête et attendit.
« Un fidèle parmi les fidèles, messieurs-dames. Il s'agit d'Isimel, un jeune garçon sourd et muet que j'ai sauvé d'un vaisseau de secours en flammes quand il n'était qu'un nourrisson. Il est comme mon fils, voyez-vous. »
Et Broto caressa doucement la tête du jeune garçon, descendant un peu trop bas dans le creux des épaules, une tendresse pas tout à fait neutre dans le regard. Azala Tika se demanda jusqu'où le vieil homme prenait à cœur son rôle de père. Alors que le marchand servait le thé aux herbes raffinées, il tapa à nouveau du pied et Isimel se réveilla pour déballer le premier objet de sa protection, puis le présenter en offrande, mains jointes et tête à nouveau courbée, aux quatre exodés assez gênés par cette apparente soumission.
« Voici la première pièce de ma collection. Elle provient d'une carrière à plusieurs mois de transition hyperspatiale au-delà de la passe. Il s'agit d'une compression extraordinaire de carbone d'une beauté inouïe. »
L'objet luisant, d'un noir profond, était veiné de micro-filons de diamants lui donnant une sorte de vibration visuelle effectivement très troublante. Étrange minéral à la fois graphique, carbone et pierre précieuse. Mais quelque chose d'autre émanait de lui.
« Il y a une émanation. » « Un son mental, Monsieur Broto, n'est-ce pas ?»
commenta Onawan, le regard perdu dans la pierre. Azala ne put retenir un tressaillement. Oui, c'était cela. Comme un murmure résonnant en haut de sa nuque, elle sentait quelque chose. Coup d'œil en coin, la lieutenant-colonel était bien plus sensible aux choses de l'esprit que la moyenne habituelle des soldats.
« Effectivement, madame. Cette pierre extraite de cette carrière aurait des propriétés anthropiques, résonnant psychiquement, mais de manière naturelle. » On est encore à la recherche d'applications dans le domaine mental, mais je dois bien vous avouer qu'il existe peu de manteaux capables de nous aider. Passons à la seconde pièce, voulez-vous ?
Nouveau coup de pied sur le sol, et Isimel rangea le premier paquet dont le son disparut bizarrement alors qu'il l'emballait. Il prit le second objet, le déballa, et se replaça en position d'offrande. Une petite statuette, à moitié détériorée par le temps, dont un seul début de bras subsistait encore et dont la tête n'était qu'un ovale un peu trop allongé en comparaison des proportions humaines.
« Elle est en argile, et elle a été découverte par hasard dans le sol d'une planète inhabitable, à quelque encablure de la passe. La datation au lithium 111 a surpris tout le monde, 7 millions d'années. Le propriétaire l'a perdue, ainsi que sa vie, dans un des bordels proches des quais. Heureusement, des connaissances de votre serviteur n'étaient pas loin, et ils m'ont fait parvenir ce petit bijou.
7 millions d'années. C'est impossible, Monsieur Broto. Nos ancêtres n'étaient pas ici à l'époque.
Je sais, madame. De même que la planète d'où vient cette relique est proprement invivable pour l'homme. Et pourtant...
Monsieur le marchand, le rêve fait bien partie de votre métier, nous en sommes conscients, mais soyez honnête. Vous croyez vraiment que nous achèterions un objet décrit comme tel simplement en vous faisant confiance? Je pense que...
Excusez-moi de vous interrompre, princesse, mais je n'ai jamais dit que ces reliques étaient à vendre.
Silence. Runta sortit une cigarette et claquant des mains, Broto fit entrer une servante en tauge qui vint se pencher devant le politicien un briquet à la main pour la lui allumer. Nouveau coup de pied au sol, et Isimel se réanima, emballant l'étrange statuette. Humant sa cigarette, le commandant du transporteur numéro 4 se laissa couler en arrière dans les profondeurs du coussin moelleux, les yeux dans le décolleté généreux de la servante qui restait postée devant lui, les yeux envoûtants.
Qu'est-ce que c'est que ça, Monsieur Broto ? Un morceau de métal noir ?
Oui, princesse. Un élément d'un ensemble de restes trouvé contre une montagne près de la nébuleuse glacée, à 2 semaines de transition de l'autre côté de la passe. Vous noterez... son aspect mat, ses nervures régulières, comme usinées sous la surface. Mais je vous avoue que la datation n'a rien d'honnête probant.
C'est-à-dire ? Le lithium 111 est notre méthode la plus précise pour dater n'importe quoi.
En fait, pour être honnête, le résultat en a désorienté plus d'un. Et c'est la raison pour laquelle tout ceci est resté caché. D'après les tests effectués, et malgré qu'elle n'ait pas été conçue par l'homme, cette pièce nous est contemporaine.
Runta sortit de sa rêverie et écartant galamment la belle femme en la prenant par les hanches, il observa l'objet de toutes les attentions et se figea net. L'objet en offrande dans les mains du jeune garçon était un morceau de vaisseau identique aux débris récoltés lors de l'incident autour de Vegas 4, où un astronef d'origine inconnue avait pu mettre des cendres et ses redoutables chasseurs en déroute.
Mais alors, si rien n'est à vendre, Monsieur Brotto, pourquoi donc nous faites-vous toutes ces présentations ? Je continue de penser que tout a un prix et que le vôtre serait peut-être le mien pour ce morceau de métal.
Insista Runta. Mais d'un geste, le marchand confirma sa réponse.
Monsieur Runta, je peux parfaitement comprendre que vous vouliez récupérer cette pièce si intrigante, mais je me permets de vous rappeler que ces marchandises n'ont pour moi qu'une seule et unique valeur, la symbolique qui fait vibrer le collectionneur que je suis.
Vous êtes bien le premier marchand que je connaisse qui refuse de vendre quelque chose.
Madame, vous ne connaissez sans doute pas beaucoup les marchands de pin-up. Nous sommes une caste à part. Oui, bien sûr, venant de Materwan, vous ne comprenez pas. Tenez, prenez cette pièce justement. Elle m'a été donnée par un autre marchand qui aurait tout fait pour la vendre à prix d'or à toute personne cherchant des traces de civilisation extraterrestre. Et pourtant non, il me l'a offert. Car il y a longtemps... Pour une autre affaire de ce genre, je l'avais sorti d'affaire autour d'une histoire de cargaison volée. Ce marchand tenait lui-même cet objet d'un groupe d'aventuriers, sans foi ni loi. Nous parlerons de pirates si vous voulez, et qui avait égorgé toute une famille pour récupérer cet artefact. Mais un soir, complètement sous dans un pub, ils se sont entretués, et le dernier porteur de ce trophée est mort dans les bras de mon ami.